Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Éclairage avec Yvon Gattaz, membre de l'Institut, ancien président du CNPF, président fondateur de l'association Jeunesse et Entreprises qui fête ses 20 ans, également président et fondateur de l'association des entreprises patrimoniales dont vous allez nous parler, Yvon Gattaz. Mais d'abord, petite interrogation en tant que membre de l'Institut, c'est une interrogation quelque peu phonétique mais qui nous intéresse aussi. Le Z se prononce bien.
Le Z se prononce. Il n'y a qu'une petite exception en Haute-Savoie qui, par un petit snobisme local, évite de prononcer le A. Ça fait très chic. Mais dans tout le reste, dans la Savoie, dans tout le Dauphiné, les Z se prononcent aussi bien pour les As que pour les Os. Il n'y a pas d'ambiguïté. Gattaz, c'est toujours bien prononcé Gattaz puisque je suis né à Bourgoin, entre Lyon et Grenoble, dans l'Isère, donc dans le Dauphiné.
Voilà, cette précision faite pour ceux qui s'intéressent précisément à la prononciation, ici même à l'Institut. Yvon Gattaz, donc mes vies d'entrepreneur chez Fayard, ce ne sont pas des mémoires avant l'heure ?
Ce ne sont pas des mémoires. Effectivement, Fayard m'avait demandé « Voulez-vous écrire vos mémoires ?» Et moi, je suis hostile aux mémoires. Vous savez, j'ai dit souvent que je circulais au phare et non pas au rétroviseur. C'est une de mes images favorites. Et que ma famille dit toujours que je ne regarde jamais le passé, je ne commémore pas les anniversaires ni les fêtes. Et je regarde toujours ce qui se passera demain ou après-demain, ce qui paraît-il un grave défaut. Mais ce n'est pas tout à fait un défaut pour un entrepreneur. Donc, j'ai répondu à Fayard que je ne voulais pas écrire mes mémoires, stricto sensu, mais qu'en revanche, je voulais bien écrire mes histoires à la condition qu'elles puissent servir d'éclairage pour l'avenir, c'est-à-dire servir éventuellement d'exemple aux jeunes qui ont toujours besoin d'exemples. Ils sont très sensibles aux vertus irremplaçables de l'exemplarité. Ils sont plus sensibles à l'exemple qu'à la théorie. Ils sont plus sensibles à la formule qu'à la théorie également. Et c'est pourquoi j'ai accepté de faire un livre racontant, c'est le mot, racontant mes histoires d'entrepreneur, mes aventures d'entrepreneur, mes tentatives, quelquefois échouées d'entrepreneur, pour que ça puisse éventuellement leur servir de modèle et qu'ils puissent dire, bah, si Yvon Gattaz l'a fait, pourquoi pas moi ?
On connaît votre formule « vite et bien » qui d'ailleurs figure toujours dans votre bureau.
Toujours dans mon bureau, j'ai les armes de radial prétendu du XVIIe siècle, ce qui sera un peu étonnant pour l'électronique.
Depuis 52.
Mais depuis 52, et sur lequel figurent les armes de radial, bien entendu, récentes et inventées, et au milieu, ma formule, ma devise, « vite et bien », qui a été un peu considéré au départ comme une incongruité, car on disait que c'était deux facteurs incompatibles. On faisait ou vite et pas très bien, ou bien et pas très vite. Et il est indispensable aujourd'hui, dans la compétition féroce mondialisée, de faire à la fois vite et bien. C'est un compromis difficile à atteindre, mais qui est obligatoire.
Pardonnez ma naïveté, mais comment faites-vous pour toujours être dans la course alors que vous approchez les 80 ans, je crois ?
Faut pas le dire, ça.
Faut pas le dire.
Les admirateurs vont être déçus, n'est-ce pas ? Bon, c'est vrai que je suis plutôt jeune, mais écoutez, si vous me trouvez en relativement bonne forme, et je vous en remercie, ce qui n'est peut-être pas l'avis de tout le monde, c'est que il faut avoir une forte activité. Vous savez, peut-être bien entendu, si j'étais intéressé par une maladie très grave, je ne serais pas comme ça, mais je remarque qu'à petites infirmités de l'âge normal, les gens inoccupés sont beaucoup plus malades que les gens suroccupés. Alors je suis dans la catégorie des suroccupés, ce que ma famille n'apprécie peut-être pas tellement, parce que je continue à me lever à 6h du matin, à partir avant 7h et être à 7h30 installé à mon bureau, ce qui est peut-être pas tout à fait raisonnable.
L'entreprise de 1952, Radial, qu'a-t-elle de commun avec l'entreprise de 2006 ?
Elle est très différente. D'abord, il faut bien dire que cette entreprise a été reprise par mon fils, Pierre, qui est un ingénieur comme moi, mais un ingénieur électronicien, donc bien plus familiarisé avec les techniques modernes, et qui, deuxièmement, a travaillé comme ingénieur et qui a fait une formation aux États-Unis, donc qui a une formation internationale, qui est à la fois multilingue, multiculturel, ce qui est rare et très important, et voyageur. Voyageur, ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir changer de fuseau horaire du lundi au dimanche compris, bien sûr, certain nombre des qualités que les jeunes managers ont et que nous, les anciens managers, n'avons pas. Nous avions d'autres qualités. La preuve, c'est que nous savons créer des entreprises performantes, d'innovation, de l'animation des hommes, de sens des besoins commerciaux, des sens de la technologie nouvelle, mais eux ont des qualités supplémentaires. Je dois dire que mon fils Pierre a donné une nouvelle dimension à Radial qui en avait besoin. Vous savez, on raconte même, je dis dans mon livre, que le deuxième souffle est parfois plus difficile que le premier. Beaucoup de chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise, comme les deux frères Gattaz, puisque je l'ai créé avec mon frère Lucien en 1952, trouvent le premier créneau un peu par hasard, par chance, ou plutôt par recherche laborieuse. Ils trouvent ce créneau, il y a un marché disponible, il y a des produits à fabriquer, il y a des produits à vendre, ils s'engouffrent dans la brèche et ils développent l'affaire de façon intéressante, quelquefois magnifique. Et puis, lorsque le créneau se ferme peu à peu, parce que il y a la concurrence qui est arrivée, parce que ces produits sont remplacés par d'autres, parce que le marché a changé, il faut qu'il trouve ce que nous appelons le deuxième souffle. Eh bien là, je me rends compte, dans mon expérience qui est assez longue, des entreprises françaises, que ce deuxième souffle est extrêmement difficile à trouver et qu'il y a énormément d'échecs dans le deuxième souffle.
Tout va trop vite, alors pour ne pas dire trop bien, tout va trop vite peut-être, et le deuxième souffle arrive très vite également.
Oui.
Beaucoup plus vite peut-être qu'avant, non ?
C'est pas tellement ça, c'est
non.
Plutôt qu'on ne cherche pas de la même façon. Lorsque vous démarrez une entreprise ex nihilo, partez de 0, 0, 0, vous vous contentez d'une mini-entreprise, d'un mini-créneau, de mini-produits, de mini-marché. Et vous partez de zéro, vous prenez ce qui est bon. Et si vous avez la chance que ça se développe, ça se développe. Si ça se développe par autofinancement, c'est-à-dire en remettant les bénéfices dans la grande marmite, c'est encore mieux, sans faire appel au marché, ou à des capitaux extérieurs, à la dilution des capitaux, etc. Mais pour le deuxième souffle, vous avez déjà une entreprise qui fait quelques centaines de millions d'euros, et vous voulez pas redémarrer un deuxième souffle par quelque chose d'insignifiant.
Donc il y a une force d'inertie alors.
Voilà, vous cherchez quelque chose d'une certaine taille. Deuxièmement, vous cherchez pas de la même façon. Quand vous êtes tout seul, vous cherchez vous-même. Quand vous commencez à être un groupe très constitué, vous faites chercher par des ingénieurs, des techniciens, des commerçants, et tout le monde vous apporte des marchés qu'il faut trier, analyser. Alors, il y a moins d'intuition spontanée, cet entrepreneurial flair que les Américains aiment tant, et il y a plus de déductions logiques qui ne sont pas toujours très favorables à l'intuition pour l'avenir, le flair.
Mais c'est quand même un peu surprenant, Yvon Gattaz, parce que beaucoup d'entrepreneurs aimeraient arriver au stade du deuxième souffle déjà.
Oui.
Ne pas se faire laminer à l'échelon du premier.
C'est tout à fait vrai. Et là, de ce côté-là, nous avons la chance d'avoir créé avec mon frère Lucien une entreprise radiale dans les composants électroniques, innovatrice, qui a trouvé beaucoup de produits nouveaux dans d'autres branches. On a commencé par... Vous savez qu'on a inventé la fiche coaxiale de télévision, mon frère et moi, en 1952. Puis ce créneau étant épuisé, on l'a vite cédé. On s'est lancé dans les connecteurs coaxiaux professionnels pour radar, instrumentation et télécommunications. Puis après, on s'est lancé dans le domaine des hyperfréquences, l'instrumentation hyperfréquence, puis dans des connecteurs spéciaux pour l'aéronautique, le spatial, voyez-vous. Donc on a déjà changé assez souvent en restant dans la même branche quand même. Et trouver par exemple une nouvelle branche, de nouveaux produits, de nouveaux marchés, c'est extrêmement complexe.
Encore une formule un peu curieuse quand même. Une vie de révolutionnaire, ça aurait pu s'intituler comme ça votre livre.
Oui, oui. C'est-à-dire que, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je pense, et de plus en plus, que les jeunes qui créent des entreprises contre la vie générale, contre tout le monde, contre les institutions, contre la voie royale, contre les grands diplômes, contre les tapis rouges, etc., contre l'intelligentsia, ce sont quand même des héros. Ça l'est moins aujourd'hui. Car en 1952, ils faisaient tout ça pour créer une entreprise. On ne lâchait pas une situation assise dans un très grand groupe honorable pour devenir artisan de fond de cour. Je raconte dans le livre Mes vies d'entrepreneur combien nous en avons souffert, mon frère et moi. Ça a été une descente sociale verticale, descente aux enfers. Bah, que fait votre mari ingénieur, chère madame ? Eh bien, il bricole dans un fond de cour. Voilà la réponse qu'il fallait faire. Alors qu'avant, il était ingénieur en chef dans la grande société Intel. Ça avait un autre prestige, vous voyez. Donc, à l'époque, il fallait être non-conformiste et j'allais dire, un petit peu héroïque pour faire tenter cette aventure. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à réhabiliter peu à peu la création d'entreprises en France, et on peut dire que 50 ans plus tard, la création d'entreprises est aujourd'hui honorablement appréciée. Les créateurs d'entreprises, s'ils sont diplômés, ne sont pas des héros en France comme ils sont en Amérique, mais ils passent pour des gens solides, des aventuriers honorables, et qu'il faut respecter et tenter même un peu d'aider.
Êtes-vous un libéral ?
Tout à fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire libéral. Si libéral, c'est reconnaître l'économie de marché et la concurrence mondiale et de se débrouiller sans demander la protection de l'État, je suis libéral.
Vous diriez que la France souffre d'une exception bien française avec un secteur collectiviste extrêmement abondant, hypertrophié qui est l'État, et puis un secteur d'économie capitaliste qui lutte contre cette même institution. D'ailleurs, la politique donne aussi ce spectacle peut-être assez triste que ce ne sont jamais que des hauts fonctionnaires qui sont élus à des postes à responsabilité, pas des entrepreneurs. On n'aime pas les entrepreneurs ici.
Il y a un chapitre de mon livre que vous avez lu, et qui est intitulé « L'entreprise et la création d'entreprise n'ont pas besoin d'aide, elles ont besoin d'air ». Et cette phrase, ce gattazisme, puisque c'est un gattazisme bien connu,
je voulais vous en faire parler
que
aussi.
J'emploie tout le temps, eh bien écoutez, il a été réhabilité de façon spectaculaire hier, dans le journal Les Échos, n'est-ce pas, une page complète intitulée « Les entreprises n'ont pas besoin d'aide, elles ont besoin d'air
bon, ». En vous citant quand même
c'était, non.
Ah ben alors là, vous auriez pu...
Oh, j'ai envoyé une lettre aimable à celui qui l'a cité, parce qu'il aurait pu rappeler la source. Enfin, c'est vous dire que mes gattazismes deviennent des vérités profondes, gravées dans la pierre.
Bon, il y a une imprégnation peut-être de certaines valeurs, mais quand même, sur le terrain, on souffre plus ici qu'ailleurs, en termes de création d'entreprise, non ?
Bien entendu, parce qu'on a un État tutélaire, providence, qui est en fait un État moloch, et qui veut s'occuper de tout, d'ailleurs. Même pour la création d'entreprises dont vous parlez, il y a un an ou deux, un grand colloque, que j'avais peut-être un petit peu poussé, appelé de mes voeux, intitulé « La création d'entreprises ». Et ils avaient ajouté « La création d'entreprises, une affaire d'État ». J'ai protesté de façon véhémente en disant « Changez le titre, mettez « Création d'entreprises, une affaire loin de l'État ». Tout est là. Et voyez-vous, des gens pleins de bonne volonté qui ont titré leur colloque une affaire d'État. Faut être fou.
Voilà. Donc là, le réflexe conditionné.
C'est le réflexe conditionné. Alors que je me bats, moi, depuis des années, depuis mon livre « Les hommes en gris » qui est sorti en 1970 et qui a lancé la création d'entreprises en France, parce que personne avant Yvon Gattaz n'avait parlé de création d'entreprises. Elles étaient clandestines, spontanées, cachées, etc. Personne n'en avait parlé. Et l'intelligentsia française et les gouvernants français ne savaient pas comment naissaient les entreprises françaises. On dit que la moitié pensait qu'elles naissaient dans les choux et que l'autre moitié pensait qu'elles étaient apportées par les cigognes. Donc la naissance clandestine des entreprises était un mystère de la France jusqu'au livre d'Yvon Gattaz, Les hommes en gris, qui a expliqué comment créer des entreprises et qui a déclenché, je pense, j'ai eu beaucoup d'élèves après, beaucoup de disciples, si j'ose dire, sans trop de prétention, qui ont écrit d'autres livres sur la création d'entreprises, beaucoup d'associations qui m'ont suivi. Et aujourd'hui, la France est assez bien organisée dans ce domaine-là pour inciter, et non pas tenir par la main, pour inciter les créations d'entreprises. C'est ce que je demande, qu'on incite et qu'on ne dirige pas.
À tout de suite, Yvon Gattaz.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio Canal Académie.
Éclairage avec Yvon Gattaz, membre de l'Institut, mes vies d'entrepreneur aux éditions Fayard, ancien président du CNPF. Mes vies d'entrepreneur, pourquoi pas ma vie d'entrepreneur ? Alors on imagine qu'elles se sont succédées toutes ces vies.
Oui, pour tout vous raconter de façon anecdotique, quand mon éditeur Fayard m'avait demandé de faire mes mémoires et que j'ai refusé car je voulais pas écrire des mémoires, en plus je n'avais pas du tout l'envie d'être photographié tout nu à 2 mois sur le canapé du salon, ni parler de la scarlatine de la tante Adèle, j'ai accepté de faire un livre, je l'ai dit, un livre d'espoir. J'ai pas pu appeler ce livre « Mémoire d'espoir » car le titre était déjà pris par le général de Gaulle, donc il était déjà célèbre, mais genre « Mémoire d'avenir ». Alors, le mot « mémoire » me plaisant pas car il faisait un peu rétro, on m'a proposé de raconter ma vie. J'ai trouvé ça un peu présomptueux. Et nous avons cherché un titre. Alors, moi, j'avais trouvé beaucoup de titres, vertu irremplaçable de l'exemplarité, puisque les jeunes sont surtout sensibles à l'exemple. J'avais proposé un titre un peu ambigu, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, « Citer pour susciter ». C'est une maxime qui est affichée dans nos bureaux de notre association Jeunesse et Entreprise, qui s'occupe beaucoup des jeunes et de la création d'entreprises, et je trouvais que tout ça était incitatif. Et puis, finalement, nous avons trouvé un compromis avec mon éditeur, avec ce titre qui a l'air de plaire beaucoup, tant mieux, je m'en réjouis, puisque le livre semble avoir un remarquable démarrage, espérons que ça continuera, mais Vie d'entrepreneur, qui est suffisamment attrayant,
dynamique,
qui crée quelques interrogations. On s'est dit, mais ce Gattaz, il a eu plusieurs vies, est-ce qu'il est ressuscité, ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai que, comme j'ai créé beaucoup de choses dans ma vie, depuis la création de notre propre entreprise et beaucoup d'associations par la suite, qui m'ont toutes donné beaucoup de satisfaction, je raconte qu'on peut créer et être satisfait de ses créations, sans fausse modestie.
Vous avez réhabilité le mot « patron » ?
Oui.
Très mal vu.
Je l'ai réhabilité, c'est peut-être trop dire. Je l'ai d'abord tourné en dérision, puisque le mot « patron » n'était pas bon, encore que son origine étymologique est excellente, puisqu'il vient de « patronus », qui, vous le savez, dans les familles patriciennes romaines, était l'homme qui s'occupait des petites gens, des esclaves affranchis, des étrangers, c'était ces gens. Eh bien, malgré ce mot de patronus, qui, bien entendu, vient de pater, malgré l'origine tout à fait noble de ce mot, le mot patron n'est pas très apprécié dans notre pays, contrairement à d'autres, et je l'ai volontairement employé, moi, pour tenter de le réhabiliter sans être sûr d'y être arrivé. Alors que ce mot patron est resté noble dans d'autres professions. Un patron pêcheur est tout à fait noble. En médecine, le patron, c'est tout à fait noble. Même dans la police. Sauf dans les entreprises où on représente le patron toujours caricaturé avec un gros ventre, un gros cigare et en train d'écraser sous sa botte de fer des pauvres salariés sous-payés.
Il y a une forme de malédiction, là, peut-être bien française, là aussi.
Oui, vieille tradition. Mais, vous savez, ça fait partie de cette espèce d'humour français qu'il faut prendre comme tel et pas trop se frapper. Moi, j'ai été tourné beaucoup en dérision quand j'ai été patron des patrons, puisque c'était l'expression consacrée. En fait, j'étais président du CNPF, le Conseil national du patronat français qui s'appelle aujourd'hui MEDEF, et Mouvement des entreprises de France. Et je dois dire que j'ai supporté ce mot patron gaillardement, j'aurais même plutôt été fier, car je vois que avec nos salariés, lorsqu'on a un climat convivial dans l'entreprise, ils sont assez fiers de parler de leur patron. Ils n'aiment peut-être pas les patrons en général, ils aiment bien leur patron en particulier, c'est encore une exception française.
Vous étiez patron du CNPF à une heure assez difficile, assez délicate, au moment où la France basculait dans l'ère socialiste. Vous avez converti, dit-on, les socialistes à l'entreprise ?
Oui, c'est pas tout à fait faux, enfin c'est ce qu'on me prête. Je crois que c'est quand même en grande partie vrai. La vérité, si vous voulez, la suivante, en toute modestie, et on s'est trouvé en 80 devant une situation que les chefs d'entreprise considéraient comme tragique. Un programme commun de la gauche qui voulait terrasser les entreprises, nationaliser les entreprises, écraser les entreprises, faire fuir les entrepreneurs, enfin, c'est évident, c'était affiché. Et les premières mesures du gouvernement socialo-communiste, puisqu'il y avait quatre communistes au gouvernement, premier gouvernement Mauroy, le gouvernement a pris des mesures assez dramatiques. Bon, simultanément, 39 heures payées 40, la retraite à 60 ans, la montée verticale des charges, le projet Auroux, qui s'est transformé plus tard en loi Auroux, qui donnait tous les pouvoirs aux syndicats, les nationalisations massives, on devait nationaliser toute l'industrie, toutes les banques, tout le système financier, et on ne savait pas jusqu'à quel niveau ça descendrait. À telle enseigne, c'est que mon frère me disait, nous, Radial, nous allons peut-être être nationalisés. Ce qui était quand même un petit peu exagéré, et ne sait par odeur, par produit. Mais tout ceci pour vous dire que la situation était considérée comme tragique. Beaucoup plus tragique que tout le monde ne le croit. Ou on a un peu oublié. Dans une telle situation, que faire? Il y avait blocage total entre le CNPF et le président de la République. CNPF avait pris quelques positions politiques, disons, normales, qui n'étaient pas très favorables à Mitterrand, qui étaient très rancuniers, comme chacun le sait, et il y avait blocage. Le CNPF n'était pas reçu, il ne pouvait faire aucune proposition, aucune critique, rien. Il n'existait plus. Il fallait trouver, non pas un sauveteur, ça paraît très présomptueux, mais au moins quelqu'un d'admis. Alors, il est vrai qu'un créateur d'entreprise à partir de zéro, fils et petit-fils d'enseignants, c'est-à-dire qui n'avait pas une fortune tombée du ciel, qui n'avait par bonheur jamais fait de politique, n'était inscrit à aucun parti, bon, et qui avait créé en plus un mouvement patronal éthique, dont on parle encore beaucoup et dont je suis très fier, alors, pour revaloriser l'image de l'entreprise, pour créer une morale d'entreprise, une éthique d'entreprise qui est très importante, pour avoir une stratégie humaine, occuper des hommes, en direct, personnalisé, sans passer par la hiérarchie des syndicats, et favoriser la création d'entreprises à partir de zéro, tout ça, c'était des valeurs sûres, si j'ose dire, et qui m'avaient rendu très populaire auprès de tous les milieux, y compris les milieux de gauche, sans le savoir. Donc, j'ai été élu, et par bonheur, alors c'est là où il y a un petit miracle, j'ai tout de suite été appelé par le président Mitterrand, qui a tenu à me voir en tête-à-tête très souvent, très, très souvent. Alors, de là à dire que j'ai été son professeur d'économie, comme on le raconte partout, que je lui ai enseigné l'économie, qu'il a bien reconnu les leçons, et que nous avons ainsi sauvé la France, non, ne tombons pas dans l'image d'Épinal. Disons que nous avons sauvé l'immeuble, nous avons évité le pire, nous avons arrêté l'hémorragie, et dès le 16 avril 82, c'est-à-dire un an, moins d'un an après la prise de pouvoir des socialo-communistes, il y avait des mesures conservatrices qui ont été prises, bien sûr, à forte pression, mais également sous la forte pression du président de la République lui-même. Sans la complicité de Mitterrand, jamais le gouvernement Monroy n'aurait pris le 16 avril, Monroy entouré de 6 de ses ministres, nous aurait accordé les mesures conservatoires, des mesures de sauvegarde qu'il nous a accordées et qui ont permis d'arrêter l'hémorragie. En partie, cette montée himalayenne des charges qui montait toutes les semaines et qui terrassaient les entreprises, les rendaient plus compétitives. Je vous rappellerai qu'en 18 mois, nous avons eu à cette époque 3 dévaluations du franc, simultanément à 3 réévaluations du Deutsche Mark, ce qui a fait au bout du compte une différence de 30% entre l'un et l'autre.
Comment diriez-vous que la situation a évolué depuis lors pour l'entreprise? Parce que les entreprises sont toujours, non pas écrasées par les charges, mais enfin quand même soumises à une certaine pression fiscale qui n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment eu d'inversion de tendance.
Si, oh, quand même, l'entreprise a été un parti libéré. Vous savez, on se souvient plus de ce que c'était en 81. Bon, il y a eu quand même des allègements de charges. Bon, alors.
Mais estimez-vous, par exemple, qu'on a libéré les forces vives, comme on le dit? C'est un slogan alors, présidentiel.
D'abord, je ne sais pas ce que c'est que les forces vives. J'ai expliqué 20 fois à M. Mitterrand, je ne comprenais pas qu'on mette des syndicats dans les forces vives. Qu'on mette des salariés, mais les syndicats qui sont des freins. Les entreprises sont des moteurs et les syndicats des freins. Je sais bien que pour une voiture, il faut les deux. Mais quand on est dans les grandes descentes, les freins servent. Mais comme nous montons, vous le dites vous-même, péniblement la pente, il ferait bon de les libérer. Donc, les forces vives, ça reste les entrepreneurs, les entreprises. C'est ça, les vraies
forces. Bon, est-ce qu'on les a libérés, vraiment?
Libérés n'est pas le mot. On les a pas libérés totalement, non. Et c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire. Par exemple, vous voyez, les socialo-communistes avaient créé ce doublement des droits de succession dans la joie et la liesse. Les gouvernements successifs, y compris libéraux, n'ont pas osé revenir sur cette loi. Et il a fallu que nous arrachions avec notre association ASMEP, Association des moyennes entreprises patrimoniales, nous arrivions à arracher très péniblement, depuis 12 ans que nous y travaillons, quelques mesures d'atténuation sur ces droits de succession pour les entreprises patrimoniales. Alors, sous réserve d'un pacte que nous avons inventé, le pacte ASMEP, eh bien, sous réserve qu'on conserve les titres pendant 6 ans, nous pouvons avoir un allègement de droits de succession de 75%. Mais jamais aucun gouvernement de droite n'est revenu sur cette incroyable mesure de doublement des droits de succession qui, où nous se soldons dans le monde à avoir 40% de droits de succession en taux marginal en ligne directe. Pour prendre un exemple très simple pour que tout le monde comprenne, une entreprise moyenne patrimoniale qui vaut, mettons, 100 millions d'euros, plutôt le bas de la fourchette d'une moyenne entreprise. Si l'entrepreneur disparaît ou veut transmettre la direction à son fils, qui est compétent et motivé, ce qui peut arriver par bonheur de temps en temps, Eh bien, il faut que ce fils en question, pour reprendre la société, trouve dans sa poche, déjà défiscalisée, la modique somme de 40 millions d'euros.
C'est ce qui explique que beaucoup d'entreprises passent dans des mains étrangères.
Ça explique que toutes les entreprises passent dans des mains étrangères, car il n'y a pas un héritier en France qui peut payer ça. Et ce qui explique que pendant 20 ans, de 82 à 2002, il n'y a pas eu en France une seule transmission normale, directe, d'entreprises familiales, d'entreprises patrimoniales dans notre pays, et qu'il y a eu quelques transmissions par des voies détournées, par des promenades à l'étranger, par des détours incroyables, et qu'il y a que maintenant qu'on commence à rétablir un petit peu une situation, mais nous ne sommes pas, comme vous le dites, encore à égalité totale avec nos voisins européens.
Ça, c'est l'exemple type presque de la spoliation, enfin en tout cas de l'absurdité.
Oui, oui, ce sont des impôts confiscatoires.
Des impôts confiscatoires.
Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, ça, c'était confiscatoire. D'ailleurs, tous les gouvernements qui se succèdent le reconnaissent plus ou moins.
Alors, vous dites quand même que, c'est récent, hein, le jour des obsèques d'Édouard Michelin est à marquer d'une pierre blanche pour vous. Pourquoi ?
Tout à fait. C'est un phénomène qui, à mon avis, sera considéré dans quelques mois ou quelques années comme historique. Nous nous battons, et je me bats en particulier, vous le savez, pour cette réhabilitation morale de l'entreprise et particulièrement de l'entreprise patrimoniale. J'ai inventé cette expression d'entreprise patrimoniale quand j'ai créé ASMEP en 1994. Les entreprises patrimoniales, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les entreprises où les dirigeants ou le ou les dirigeants d'entreprise ont une part significative du capital, une part suffisante du capital pour pouvoir prendre les décisions stratégiques à long terme. Bon, nous n'avons pas voulu fixer des taux de 51 ou 33%. Une part suffisante pour prendre des décisions à long terme. Donc, ils sont totalement ou partiellement propriétaires. Et j'ai voulu les appeler patrimoniales et non pas familiales, car les entreprises familiales sont une partie des entreprises patrimoniales. Il y a trois catégories dans les entreprises patrimoniales. Il y a les familiales au stricto sensu, où les actionnaires ont des liens de parenté. Il y a l'entrepreneur tout seul, qui a créé son entreprise et qui reste propriétaire à 100%. Le docteur Jacques Servier, qui a créé les laboratoires pharmaceutiques du même nom, pousserait, je pense, des cris si vous lui disiez qu'il est dans une entreprise familiale. Sa famille n'a strictement rien à voir dans cette affaire. Et puis, la troisième catégorie, très importante et de plus en plus importante, ce sont les entreprises d'associés non-parents. 2, 3, 4, 5 associés aujourd'hui, sans lien de parenté, mais avec des talents complémentaires,
ça se répand énormément.
Décident de créer une entreprise. Cette entreprise, ils en ont le tiers, le quart, le cinquième en propriété. Ils sont donc partiellement propriétaires, c'est une entreprise patrimoniale, et on ne peut pas appeler cette entreprise familiale. Alors c'est pour ça que j'aime pas beaucoup le mot entreprise familiale, que je trouve très réducteur, qui est très employé aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le family business, qui est venu en Europe, et tout le monde me parle de family business, je trouve ça très restrictif, et je préfère le mot d'entreprise patrimoniale. Alors, pour revenir à Michelin, pour répondre tout plus directement à votre question, cette entreprise patrimoniale est toujours vilipendée, décriée, du point qu'elle est maudite.
Enfin, patrimonial paternalisme.
Voilà, exactement. C'est patrimonial paternalisme. Alors, le paternalisme, qu'est-ce que le paternalisme ? On a un mot, voilà, un mot qui est également d'origine étymologique tout à fait noble, encore le pater, on y revient. Mais à partir du moment où vous occupez affectueusement de vos salariés comme un père qui traiterait ses enfants, c'est-à-dire quelquefois un peu durement, mais toujours affectueusement, eh bien, en France, ce mot est revenu d'un petit voyage dans les pays anglo-saxons avec une notion de perfidie. Si vous faites du paternalisme, vous vous occupez perfidement de vos salariés. Oh. Alors, d'où vient ce mot perfidie ? Je n'en sais rien et je trouve ça dramatique. C'est pas... Alors, j'essaye moi aussi de réhabiliter le mot paternalisme, que j'ai essayé de réhabiliter le mot patron, pour tout vous dire, sans grand succès. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que les entreprises patrimoniales, donc paternalistes, eux, sont si décriées, il y a eu ce drame Michelin qui est survenu il y a quelques semaines. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que nous attendions tous des hommages bien naturels de la part des salariés, des fournisseurs, des amis, des clients, etc., ce qui était normal, mais également des réactions des boutefeux habituels qui disent encore des entreprises familiales qui s'en mettent plein la poche, c'est encore comme d'habitude l'entreprise au service de la famille. Qu'est-ce qu'on a entendu ? La famille est au service de l'entreprise et jamais l'inverse. La phrase d'un SMEP que nous proférons nous-mêmes depuis 12 ans sans que personne la reprenne.
Une consécration.
Une consécration, ça y est, c'est fait. On a cru que nous étions copiés, entendus, et nous n'avons pas entendu de seule critique. Nous pensons qu'il s'est passé là une sorte de tournant dans l'image de l'entreprise patrimoniale.
On marque une deuxième pause. Yvan Gattaz est l'invité de cet éclairage « Mes vies d'entrepreneur » aux éditions Fayard, ancien président du CNPF, président fondateur de Jeunesse et Entreprises qui fête ses 20 ans et également de l'association des entreprises patrimoniales, la SMEP, dont vous nous parlez, dont vous venez nous parler, qui a connu un tournant, j'allais dire un tournant presque symbolique avec la mort d'Edouard Michelin. On n'a pas attaqué, bille en tête, le mauvais patron, mais au contraire, on a rendu hommage à cette entreprise, à cette famille qui était au service de l'entreprise, ce qui marque sans doute un tournant. Jeunesse et entreprise, on peut peut-être en dire un mot avec ses 20 ans quand même, Yvan Gattaz.
Ah, tout à fait, je suis très content que vous m'interrogiez sur Jeunesse et entreprise. L'histoire est simple et un peu amusante, comme toutes les histoires racontées dans ce livre, Mes vies d'entrepreneur, qui se veut, vous l'avez vu, ludique, amusant.
Alors, on va en dire un mot, hein, sur tout votre gattazisme en particulier.
Qui est rédigé de façon amusante, exprès pour être lu par les jeunes. Donc, pour rester amusant, à la fin de mon mandat de président du CNPF à 86, j'avais eu l'idée de prendre comme thème, pour rassembler un peu mes chefs d'entreprise français, pour les assises d'octobre 86, le thème « Jeunesse et entreprise », puisque je m'intéresse depuis toujours aux jeunes et que je m'intéresse également aux entreprises. C'était, j'allais dire, un thème de rassemblement personnel. Et puis, J'avais pris trois chefs d'entreprise qui m'ont beaucoup aidé dans cette organisation, dont deux petits nouveaux qui n'étaient jamais entrés au CNPF, dont l'un s'appelait Ernest-Antoine Sellière et l'autre Vincent Bolloré, et qui tous les trois ont remarquablement bien organisé cette manifestation, ont été les meneurs de jeu, les rassembleurs, les animateurs, et ces assises ont connu un succès fou. Un tel succès que je me suis dit, on ne peut pas en rester là. On peut pas dire, on a fait un feu d'artifice qui retombe dans la mer, c'est terminé. Et il faut donc qu'on fasse quelque chose. Alors, j'ai dit, nous allons créer une fondation jeunesse et entreprise, qui en fait, à l'époque, la fondation était difficile à créer, pas comme aujourd'hui, et nous avons eu un peu de peine à créer une fondation, si bien que j'ai créé une association jeunesse et entreprise qui a été reconnue d'utilité publique quelques années plus tard, en 1989, n'est-ce pas? Alors, cette association a comme but affiché très clairement et très simplement, faut dire pour les jeunes d'une simplicité biblique, rapprocher les jeunes des entreprises et, si j'ose dire, symétriquement, rapprocher les entreprises des jeunes. Que les jeunes essayent de comprendre les entreprises, comprendre les métiers de demain, les exigences de l'entreprise, la nécessité d'avoir un métier, la nécessité d'avoir quelquefois des diplômes, enfin, une compétence, et réciproquement, que l'entreprise s'intéresse un peu plus aux jeunes, à l'enseignement. Il y avait, à l'époque, entre ces deux milieux, ce que j'appelle le milieu des entreprises, c'est-à-dire l'entreprise, ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, et le milieu des jeunes, c'est-à-dire les jeunes, les enseignants et les parents d'élèves, il y avait un fossé abyssal. C'était des espèces de plaques tectoniques qui
se rapprochaient. Et le fossé s'est comblé?
Non, ils se rapprochaient. C'est un petit peu, en partie, comblé.
Attendez, Yvon Gattaz, 20 ans après Jeunesse et Entreprise, il y a le CPE, 500 000 personnes dans la rue. Et une incompréhension complète.
Alors, c'est pour ça que je vous dis que les deux plaques tectoniques ne se sont pas encore totalement rencontrées.
Voilà.
Bon, si l'abîme n'est plus abyssal, il y a encore au moins un fossé profond d'incompréhension.
Alors, qu'avez-vous fait, justement, pour favoriser ce rapprochement au début?
Alors, au début, on a d'abord écrit 6 livres. 6 ouvrages, 200 expériences montrant les résultats d'entreprises qui s'étaient intéressées à des jeunes, apprentissage et entreprise, stage et entreprise, école et entreprise, premier métier et entreprise. Et nous voulions montrer que nous avions la réflexion avant l'action. D'abord, on réfléchit. Mmh. C'est une espèce de livre guide. Et ces livres ont été pris au sérieux. On a dit, ben voilà des gens qui réfléchissent, ça se fasse au problème. Puis après, on a dit, arrêtons la réflexion et nous passons à l'action. Alors, l'action, c'est quoi? Alors, nous avons fixé une triple action, sous forme d'un sigle encore, information, formation, insertion. L'information à la fois des entreprises et la formation des jeunes et des milieux d'enseignement pour déboucher sur une formation adaptée. Et cette formation adaptée permettant de déboucher sur une insertion professionnelle qui est le but final. Mais toujours dans cet ordre. Alors, ça, le sigle IFI, dont nos jeunes ont fait la chaîne de solidarité, la chaîne IFI, ça devait arriver. Mais ce moyen mnémotechnique qui a l'air abusant est très répandu chez nous, et tous nos jeunes parlent de la chaîne IFI. On voudrait que vous nous parliez de la chaîne IFI. Bon, on parle de la chaîne IFI sans... cette plaisanterie est passée dans les mœurs. IFI, c'est un très bon symbole. Information, formation, insertion.
Là, c'est vous qui avez pris l'initiative, je l'ai dit une fois de plus. Mais alors, côté enseignant, côté éducation nationale, on a joué le jeu?
Alors, avec difficulté. Avec difficulté, il faut quand même, je vais vous surprendre, c'est pas, j'ai fait le siège de l'éducation nationale et j'avais eu l'idée de lancer un jour une petite plaquette, un petit dépliant, les entreprises parlent aux élèves de quatrième, intitulé « Bien dans ton métier ». Une révolution. Alors, je suis allé voir le ministre de l'éducation nationale avec ma plaquette. Nous avions réalisé quelques projets qui nous avaient demandé un très gros travail. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque était M. Jospin, qui m'a reçu, qui m'a bien reçu, qui m'a écouté avec beaucoup d'attention. Et nous sommes arrivés à mettre sur pied l'envoi à tous les élèves de 4e, c'est-à-dire 700, 750 000 élèves, par le ministère, par les rectorats, par les inspecteurs d'académie, par tous les collèges de France, et nous avons fait ça pendant 5 ans. Et cette plaquette a eu un succès fabuleux.
Alors pourquoi n'a-t-elle pas continué?
Ah ben, elle n'a pas continué parce qu'il y a eu un ministre de l'Éducation nationale qui a trouvé qu'on avait assez dépensé d'argent comme ça et que c'était peut-être pas la peine de continuer. Bien, voilà. C'est bien triste. Et en plus, il n'était pas de gauche. Bien, mais ceci est bien triste. C'est l'incompréhension dont vous parlez. Et nous pensons, nous sans modestie, que cette plaquette a fait changer les états d'esprit. C'est pas, les entreprises parlent aux élèves de 4e. Alors, on dit pas qu'on a réhabilité l'image de l'entreprise dans l'esprit de ses jeunes enfants et dans l'esprit des parents d'élèves, ni de l'esprit des enseignants, mais ça a un peu participé au rapprochement, à la compréhension mutuelle. Il faut qu'on se comprenne. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, moi je peux témoigner que puisque je viens d'un milieu d'enseignants, parents et grands-parents, qui est un milieu tout à fait honorable, souvent mal renseigné, très mal renseigné, je pense, et qu'il n'y a pas, à part dans ceux qui sont affreusement politisés ou syndiqués, ce qui n'est pas drôle, mais les autres, la majorité de bonne foi, ne sont pas hostiles définitivement à l'entreprise, mais simplement ne la connaissent pas. Il y a une sorte d'indifférence tragique. Or, il y a des moments où l'indifférence est pire que l'hostilité. C'est ce que j'ai découvert.
Bien sûr. Mmh.
C'est pour ça que je me suis battu et que je me bats encore pour rapprocher ces deux milieux. Je vous dis quand même avec un certain succès. Avec un certain succès. Et je trouve que les enseignants mettent beaucoup du leur. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'enseignants qui nous demandent à nous, jeunes et entreprises, comment ils pourraient faire des stages dans des entreprises pour mieux connaître les entreprises, pour organiser quelque chose avec les entreprises. C'est incroyable. Et puis alors, nous avons des clubs à jeunesse entreprise dans toute la France, et ces clubs font la liaison entre les entreprises locales et l'enseignement local. Et nous avons des rapprochements spectaculaires, intéressants. Moi, j'y vais de temps en temps, ils m'invitent lorsqu'il y a un forum, un colloque, et je suis toujours étonné.
Mais alors, ça se passe en dehors de l'école?
Ça se passe en dehors de l'école. Ça se passe en dehors de l'école, c'est généralement dans une salle des fêtes, ou bien... Ça peut se passer partout. Il y a quelquefois des rassemblements dans des entreprises, avec des professeurs qui viennent visiter. Il y a des stages de professeurs dans les entreprises. Il y a des associations entre une classe et une entreprise, ou quelquefois même un établissement et une entreprise. Ce que nous avons appelé les tandems. Tout le monde en parle de ces fameux tandems. On a inventé les tandems, nous, il y a maintenant 14 ou 15 ans.
Alors, que pensez-vous de l'argumentation qui consiste à dire l'école consiste à fournir un enseignement général, souvent abstrait, et ce n'est pas le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, c'est celui de la vie active, après les études, une fois qu'on les a finies. L'école, c'est une sorte de sanctuaire pour les idées générales. Vous vous êtes opposé à cette idée-là, j'imagine.
Bien entendu. N'est-ce pas ? Il est certain que faire des têtes bien faites plutôt que trop pleines, ça a été un idéal hérité des humanités du 19e siècle. Il fallait un enseignement très général. Bon, et il fallait pas que l'enseignement serve trop. C'est ce que les syndicats appelaient honteusement le pilotage par l'aval. On ne fabrique pas pour des métiers. Eh bien, on en est revenu. Si on fabrique pas pour des métiers, on fabrique quand même pour qu'ils aient un métier. Pour que ces jeunes aient un métier. Pas. Pourquoi avoir 800 élèves en sociologie quand on sait qu'il y a 40 places et que tout le monde le sait, y compris les élèves, y compris les professeurs? Ça, c'est assez dramatique. C'est de la conscience. Alors, je dis rien contre la sociologie. Nous avons d'éminents sociologues à l'Institut de France qui sont des grands amis à moi, pour qui j'ai une immense admiration, mais je peux vous dire qu'ils sont de mon avis. N'est-ce pas? Alors que pendant le même temps, comme vous le savez, on manque de nombreuses qualifications professionnelles dont on ne veut pas et ou pour lesquelles les parents sont en partie coupables. Car très souvent, vous le savez, les parents jouent un mauvais rôle. Ils préfèrent avoir un fils chômeur en col blanc plutôt qu'un fils travailleur en col bleu. Dramatique, dramatique. Et de là, jeunesse entreprise joue également un rôle de persuasion dans ce domaine. Tous les métiers sont honorables. Il faut qu'ils conviennent à la fois aux aptitudes et aux goûts du jeune. Et il y a beaucoup de métiers compatibles avec ses aptitudes et ses goûts. Beaucoup plus qu'on croit. Il n'y a pas un métier comme on l'a cru longtemps. Il y a des dizaines et des dizaines de métiers. Et c'est ce que nous faisons à jeunesse et entreprise, c'est de faire connaître tous ces métiers. Et il y en a beaucoup.
Oui, vous écrivez que mieux vaut avoir un pied dans l'entreprise plutôt que les deux pieds dehors. Or, avec la crise du CPE, on a quand même eu la manifestation de personnes qui préféraient avoir les deux pieds dehors.
Oui, c'est une manifestation d'inconscience poussée au crime par certains. Bon, j'ai écrit moi plusieurs articles dans les journaux pour défendre le CPE, et on m'a demandé après d'accuser ces jeunes. Moi, je défends toujours les jeunes, chaque fois que je peux, parce que les jeunes, ben, ils aiment bien le folklore. Ils aiment bien manifester un petit peu.
Enfin, au-delà, il y a une inconscience, enfin, pas une inconscience, mais plutôt une conscience que les choses iront se dégradant pour eux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on leur dit trop, n'est-ce pas ? Vous n'aurez pas de métier. Alors, on vous condamne. Alors, on a trouvé un mot magnifique. L'État veut vous condamner à la précarité. Alors, on a agité le chiffon de la précarité. Alors que moi, je leur dis, mais c'est pas de la précarité, c'est de la mobilité. Vous êtes condamné à la mobilité. Si vous ne voulez pas être mobile dans votre nouvelle carrière, vous ne réussirez pas.
Mobilité, pas seulement géographique.
Mobilité de tout. Mobilité de carrière, mobilité de métier, mobilité géographique, mobilité au sens large du terme. Flexibilité, mais le mot flexibilité est incongru et pas admis, refusé par les syndicats, enlevons-le. Il faut mettre souplesse, mobilité, quelques mots admis, utilisons-les.
Mais les entrepreneurs, Yvon Gattaz, qui se servent de salariés comme des Kleenex, comme on dit, hein, des salariés jetables qui font enchaîner les CDD, ça arrive ça aussi. Ça donne quand même une mauvaise image de l'entreprise,
alors,
non ?
Ça arrive pourquoi ? Vous croyez que cette gaieté de cœur que les chefs d'entreprise renvoient les CDD sont furieux ? Pour eux, c'est une catastrophe. Pour une entreprise, terminer un CDD pour en prendre une autre, c'est une catastrophe, faut le savoir. Mais ils sont obligés de le faire. Les rigidités sociales sont telles en France, ils sont tellement lourdement condamnés lorsqu'ils arrêtent un contrat, alors qu'en Amérique, on ferme l'usine le vendredi soir et on leur dit « non, venez pas lundi matin » et on leur donne quelquefois 3 jours, 8 jours d'indemnité compensatrice, ce que nous avons fait, nous, dans plusieurs de nos usines américaines. En France, c'est toujours un drame. Les funérailles sont toujours nationales. Et alors, on terrorise les gens avec ça. Et on terrorise les chefs d'entreprise. Nous sommes le seul pays du monde, seul, où les patrons ont une peur panique de l'effectif. La peur de l'effectif est une spécialité des patrons français. Et pourquoi cette peur d'effectif ? Alors, est-ce qu'ils sont déboulonnés ? Est-ce qu'ils sont psychiquement anormaux ? Ou est-ce qu'il y a des raisons ? Moi, je peux vous dire qu'il y a des raisons. Et ces raisons, c'est cet environnement de contraintes sociales, dramatiquement serré, délacez un peu le corset de fer et vous verrez qu'il n'y aura plus tous ces problèmes.
À tout de suite.
Êtes-vous gourmand ? Canal Academy vous propose de marquer un temps consacré à la dégustation, la gastronomie et la santé alimentaire. Avec pour étape l'histoire de la gastronomie, des origines jusqu'à la gastronomie moléculaire, nous traquerons les molécules odorantes et ferons un point sur les vertus thérapeutiques supposées du chocolat, des alicaments et des oméga-3. Nous ferons également des étapes littéraires, avec une chronique de notre bibliologue consacrée au café et une biographie de Parmentier par Anne Muratori-Philippe. Désormais, Canal Academy devient un lieu de gastronomie.
Éclairage avec Yvon Gattaz, membre de l'Institut, ancien président du CNPF, mais vie d'entrepreneur aux éditions Fayard, donc qui commence avec cet éloge à la Révolution, hein, vive la Révolution, non, mais ce livre aurait pu s'intituler, c'est ce que vous dites, une vie de révolutionnaire. Alors d'autres choses assez insolites, vous avez voulu écrire ce livre pour les jeunes aussi, hein, vous l'avez dit. Hein.
Tout à fait.
L'entreprise est un vélo, par exemple.
Oui, un vélo, parce qu'il doit son équilibre uniquement au mouvement.
Hein, toujours la mobilité.
Toujours la mobilité. Et puis un jeu de mots et sa solidité au cadre. Ça, c'est un petit jeu de mots au deuxième degré que tout le monde ne comprend pas.
Alors, c'est une image quand même très parlante. Alors, vous avez ce qu'on appelle, bien sûr, vous êtes célèbre aussi pour cela, hein, les fameux gattazismes. Alors, je donne quelques sigles que vous allez décrypter. IAA, par exemple.
Alors, il y a l'irréversibilité des avantages acquis qui terrasse la France depuis très longtemps. C'est ce corset de fer dont nous parlions il y a quelques instants.
Voilà. BBF.
La bureaucratie de bonne foi. Alors la bureaucratie de bonne foi, c'est la pire de toutes parce qu'elle a bonne conscience. C'est-à-dire que des fonctionnaires veulent vous prendre sur votre aile, leur aile tutélaire, toutes les opérations de l'entreprise, y compris la création d'entreprise, ce qui est dramatique, car création d'entreprise est synonyme, au contraire, de liberté d'action, d'initiative et de responsabilité.
Il paraît que la pire des phrases aux États-Unis, c'est quand le gouvernement vient vous voir et dit « je vais vous aider ».
Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu ça. En France, en tout cas, c'est bien vu, mais c'est dramatique.
Alors, il y a aussi le SBT.
Oui, le scepticisme de bon ton. Alors ça, c'est très chic dans les dîners en ville. Il faut être sceptique. En France, un peu d'intelligentsia est synonyme de scepticisme. Le déclinisme, la France terrassée, etc. Rien n'est bon en France. Alors, moi, je suis plutôt de la naïveté des créateurs entrepreneurs qui trouvent qu'il y a quand même pas mal de choses de bonnes, y compris surtout les jeunes.
Cette façon d'entretenir la morosité qui, à la fin, finit par peser sur le système.
Mais oui, vous comprenez, si vous engendrez la morosité, ce scepticisme de bon ton, ce SBT, il n'est pas si anodin qu'on pourrait croire. Car les jeunes sont intelligents. S'ils se trouvent dans une ambiance de morosité, la France n'a pas d'avenir, la France est terrassée par la BBF, la France ne peut pas avancer, la France est en retard, nous sommes foutus, nous sommes un pays perdu. C'est pas comme ça qu'ils vont créer des entreprises. Moi, je passe ma vie, et ce livre, Mes vies d'entrepreneur, tente de le faire, à semer des graines d'enthousiasme, d'élan, créateur. Et ça réussit, croyez-moi, ça réussit. Car il y a pas mal de ressources chez nos jeunes.
Les NK, ENCA.
Alors, les emplois nouveaux à contraintes allégées, les NK, j'avais lancé ça quand j'étais patron des patrons. Je prétendais qu'il y avait un gros réservoir d'emplois nouveaux si on allégeait les contraintes. Bien entendu, tout le monde a éclaté de rire. On a trouvé que le mot NK était ridicule. Il y a un journal qui avait titré « En cas de malheur », etc. Bon, et finalement, qu'est-ce que j'avais fait à cette époque? J'ai fait faire une enquête par un cabinet spécialisé en disant, si on supprimait une contrainte particulièrement aiguë de l'époque, l'autorisation administrative de licenciement, qui était dramatique. Bon, il fallait l'autorisation pour licencier. Enfin, vous rendez compte, si c'est grotesque, une autorisation administrative. Et alors, j'ai fait faire une étude, et ce cabinet, qui s'appelait Pragma, je lui avais dit, si on la supprime, à votre avis, combien ça peut créer d'emplois en 18 mois? On est arrivé à une fourchette dont la moyenne était 350 000 emplois à peu près. J'avais donc pris la médiane et j'avais dit, je m'engage, moi, Gattaz, président du CNPF, à ce que nous créions 350 000 emplois si on supprime l'autorisation administrative de licenciement. Bien entendu, j'ai eu aucun succès avec les socialistes. Et quand Jacques Chirac est arrivé au gouvernement en 86, je lui ai obtenu cette suppression d'autorisation administrative de licenciement annoncée le 1er juillet 86. Donc, ma période de référence, c'était le deuxième semestre 86, c'est toute l'année 87. Je n'ai donc eu mes statistiques de contrôle qu'en 88, très longtemps après. Disons 2 ans après. Et pendant ces 2 ans, on a dit, Gattaz a échoué, c'est faux, vous voyez, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et quand les statistiques sont sorties, concordantes, l'INSEE, l'UNEDIC, on s'est aperçu, aux surprises, que la suppression de l'autorisation administrative de licenciement n'avait pas créé les 350 000 emplois que j'avais supposés, mais 375 000. 25 000 de plus. Sauvés ou créés. On avait inversé une courbe qui descendait et on l'a fait brutalement remonter. Personne ne nie cette courbe. Personne.
Mais alors, les emplois jeunes?
Les emplois jeunes...
C'est quoi pour vous?
Tout ce qui est allègement de contraintes, ça marche. Tout. J'ai jamais vu, moi, une flexibilité qui crée pas des emplois. Jamais vu.
Le SMIC est une contrainte?
Le SMIC est une contrainte.
Il faudrait le supprimer?
Mais sans doute. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de SMIC. Beaucoup de pays. Écoutez, il faut faire confiance aux gens, n'est-ce pas? À force de vouloir mettre des barrières dans tous les prix, on ne peut plus circuler. Nous avons des champs avec des barrières croisées tous les 2 mètres.
Avec la concurrence qui existe aujourd'hui au sein même d'une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée, on imagine bien que si le SMIC est supprimé, certains accepteront de travailler pour 10 francs par jour. Je parle encore en francs.
Il y a peut-être des arrangements à prendre. J'ai jamais demandé, moi, vous me faites dire des choses que je n'ai jamais dites, je n'ai jamais demandé la suppression du SMIC, honnêtement. Mm-hmm. J'ai jamais demandé. Je crois que ce n'est pas conforme à l'esprit français d'aujourd'hui, en plus.
Un peu prématuré, alors.
Ce serait prématuré. On n'est pas encore d'un libéralisme exacerbé à ce point.
Alors, j'ai noté un dernier acronyme, TDN.
Oui, alors le TDN, c'est le taux de nocivité. C'est en fait l'indicateur, le seul indicateur des syndicats, que j'appelle en 2 mots des syndicats, l'auréole
oui,
des
syndicats.
Syndicats. Ils sont sanctifiés. Il y a un tabou syndical qui était fait en France et qui est anormal et incompris de tout le monde. Aucun pays dans le monde ne comprend ce qui se passe en France avec les syndicats. Et l'indicateur d'activité et d'efficacité des syndicats, de même que pour nous, entrepreneurs, c'est l'excédent brut d'exploitation, l'EBE, pas, trois lettres, EBE, un indice de productivité, d'efficacité, de création de produits, d'efficacité. Eh bien, le même indicateur chez les syndicats, c'est le TDN, le taux de nocivité, ou le taux de nuisance. Et ils ne sont reconnus que s'ils sont vraiment nuisibles. S'ils peuvent montrer leur taux de nuisance, alors là, ils sont écoutés.
Il n'y a pas eu de révolution culturelle, quand même, chez eux, chez les syndicats ?
Écoutez, je crois que ça change un peu. Il y a quelques syndicalistes intelligents, n'est-ce pas ? C'est sûr. Qui sont, d'ailleurs, s'ils ne le disent pas totalement de mon avis, mais ils ne vous le diront jamais. Bon, j'annonce la mort des syndicats depuis longtemps, la disparition des syndicats, qui sont, en France, une institution totalement archaïque, qui n'a plus rien à voir avec la concurrence mondiale dont nous venons de parler cet après-midi.
Yvan Gattaz, on arrive au terme de cette émission. Est-ce que la figure de l'entrepreneur existe encore, celle du moins que l'on a connue, celle d'un patronat, par exemple, à la Michelin ? Aujourd'hui se développent, par exemple, les sociétés plateformes délocalisées par tous les bouts, qui n'ont pas de visage, sont très anonymes, qui jouent avec les frontières en permanence.
Écoutez, ça c'est la conséquence directe de cette mondialisation.
L'entreprise de papa, c'est fini quand même, non ?
Non, c'est pas mon avis. C'est pas mon avis, je vais vous dire pourquoi. Cette mondialisation dont nous parlons, c'est-à-dire à la fois la suppression des frontières, la suppression des droits de douane, la rapidité des transports, le bas coût des transports et surtout l'instantanéité des communications, tout ceci a fait que le marché local qui était devenu national est aujourd'hui le marché mondial. Notre village, c'est le monde. Donc on est obligé d'avoir des world companies, des sociétés mondiales. Mais ces sociétés mondiales, sont-elles des sociétés gigantesques ? On est persuadé que ça doit être des sociétés gigantesques. Chacun doit absorber l'autre pour avoir ce qu'on appelle la taille critique, qui est souvent une taille critiquable. Il faut que vous sachiez que près de la moitié de ces fusions sont des échecs. Presque la moitié. On ne marie pas comme ça la carpe et le lapin. Je pense que la World Company, c'est justement des moyennes entreprises, souvent patrimoniales, qui ont une âme, qui respectent le personnel, mais qui, grâce à l'informatique, peuvent créer un réseau. C'est un réseau de moyennes entreprises. Et ça, aujourd'hui, une moyenne entreprise peut le faire. Pardon de citer notre propre groupe, Radial, qui est dirigé par mon fils Pierre Gattaz. Il a actuellement 3 usines en Amérique, une en Inde, une en Chine, une en Tunisie et une au Mexique. Et il gère tout ça comme si c'était dans notre Dauphiné natal. Donc, la World Company n'est pas forcément une entreprise gigantesque.
Mais alors, à l'opposé de ce modèle que vous nous décrivez, vous aurez des entreprises, je pense par exemple à Dell dans l'informatique, qui ne fabriquent même plus ces ordinateurs, qui sous-traitent intégralement, qui ne gardent que la valeur ajoutée de ces centres de recherche.
Alors, là vous rejoignez un peu notre prix Nobel d'économie, Maurice Allais, qui a dit qu'on avait fait une suppression des droits de douane trop rapide et qu'on aurait dû garder une préférence communautaire qui se serait atténuée dans le temps. Qu'on a fait trop vite la libération de droits. C'est vrai que c'est comme en physique, les gaz se déplacent des zones de haute pression vers les zones de moindre pression, et bien c'est pareil pour les prix, pareil pour les produits. Bah, si on a une Chine avec des taux horaires qui sont inférieurs à 10 fois, plus de 10 fois, les taux horaires français, ben, la production va se délocaliser spontanément vers la Chine, c'est ce qui est en train d'arriver. Il n'y a pas rien que la France, l'Europe, tous les pays occidentaux sont en train de produire en Chine. Dans notre branche de l'électronique, notre gros concurrent américain fabrique tout en Chine et plus rien aux États-Unis. Il n'a plus d'usines aux États-Unis, plus une seule. Alors que nous avons encore gardé 3 usines en France. 4 usines, même 3 dans le Dauphiné et une à Château-Renaud.
À travers le tissu d'entreprise que vous côtoyez, que vous fréquentez, dont vous connaissez vraiment les caractéristiques, vous estimez que la concurrence chinoise a énormément pesé sur leur avenir, sur leur situation ?
Si vous voulez, la Chine...
Les délocalisations dont on parle souvent.
La Chine, si vous voulez dire que le pôle actuel mondial de l'économie mondiale est en train de se transférer de l'Atlantique au Pacifique, n'est-ce pas ? Il faut bien voir qu'il y a un bouleversement de la Terre. Enfin, c'est pas anodin. Le pôle économique est en train tout doucement de s'inverser vers la Chine et l'Inde, qui sont en train de s'industrialiser à tout va, à une allure insensée, que personne n'aurait cru aussi rapide. Avant, il fallait quelques siècles, maintenant, il faut quelques décennies. n'apparaît pas. Donc, c'est vrai que le pôle économique du monde est en train de se déplacer. Bon, il faut essayer que ce soit le moins traumatisant pour les autres pays, mais c'est un problème d'une difficulté inouïe.
Mais la France conserve ses atouts ?
La France a encore beaucoup d'atouts. Bon, on peut, à mon avis, avoir des usines à l'étranger et garder en France quand même une main-d'œuvre hautement qualifiée pour des produits également évolués.
Donc hautement qualifiée, ce qui là justifie toute votre démarche de rapprocher l'entreprise de l'enseignement.
Obligatoire.
Merci beaucoup Yvon Gattaz d'être venu nous parler de mes vies d'entrepreneur chez Fayard. Je rappelle que vous êtes membre de l'Institut, ancien président du CNPF, président fondateur de l'association des entreprises patrimoniales et de l'association Jeunesse et Entreprises qui fête ses 20 ans.